Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Podcast Factory.
Bonjour à vous, vous écoutez Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis, comme toujours, avec mes sœurs maléfiques. Salut Margaïde. Salut Elsa. On va commencer par une super bonne nouvelle. Notre victoire à nous du moment. Donc la semaine dernière avait lieu le Paris Podcast Festival et devinez quoi, Yes a remporté le prix du podcast de conversation. C'est un peu genre la palme d'or du podcast, alors on est légèrement surexcité depuis qu'on a reçu ce prix. D'ailleurs, on a fêté ça hier soir avec toute l'équipe, d'où l'état de ma voix et notre état général au moment où on vous parle.
Waouh.
Merci beaucoup, on a mal à la tête, mais ça va le faire.
Non, tout va bien, tout va très bien.
Du coup, on voudrait vous remercier toutes et tous, puisque sans votre soutien, sans les Warriors, pas de podcast. Donc cette victoire, c'est grâce à vous qu'on peut la vivre, donc merci.
Merci, 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 merci.
On est ravis de vous retrouver pour ce 16e épisode. Déjà 16. Et cette fois, on va parler de mariage lesbien, de biphobie, de PMA, de coming out, de transidentité, d'intersexuation. Bref, nous allons parler des warriors LGBTQI+. Sans plus tarder, on va vous présenter directement notre première warrior, Elsa.
Oui, alors la première warrior, c'est Iris. Iris, c'est ma sœur chérie adorée, je vous préviens, attention.
C'est choupinou.
Elle m'a plusieurs fois raconté la lesbophobie qu'elle subissait dans la rue, les remarques salaces des mecs bien pervers qui se croient malins avec leurs vieilles blagues. Donc du coup, je lui ai demandé si elle avait une victoire à nous raconter pour cet épisode. Et après avoir un peu réfléchi, elle m'a envoyé ce vocal sur WhatsApp.
J'étais en vacances à Barcelone avec ma copine de l'époque. Ça faisait quelques jours qu'on était en Espagne. On était allé à Valence d'abord. Chez une pote à moi espagnole, elle nous avait donné quelques conseils de punchline qu'elle, elle sortait en espagnol au relou. Et on s'était déjà grave fait emmerder pendant notre voyage. Et là, à Barcelone, ça n'arrêtait pas, c'était un truc de fou. Les mecs, ils nous suivaient, ils faisaient des bruits d'animaux, ils nous disaient des trucs crades et tout le temps. Et à un moment, on allait traverser la rue. Et là, il y a un vieux pervers qui arrive vers nous. Et qui nous sort un truc super crade. Honnêtement, je sais plus ce que c'était, mais c'était très salace, c'est vraiment dégueu, quoi. Du style, je veux faire un sandwich avec vous, ou je sais pas quoi. Et du coup, on l'a regardé, et on lui a dit, à tu edad, se levante la polla. Et c'était une punchline, du coup, que ma pote nous avait conseillé de dire aux vieux. Et du coup, pour lui dire, mais en fait, de toute façon, tu peux même plus bander, mec. Enfin, laisse-nous tranquille, quoi. Et du coup, il a été super dépité. Il est parti un peu la queue entre les jambes. Donc, c'était notre petite victoire de la journée et du séjour. Vu qu'il y avait plein de contextes où on n'avait pas su répondre.
La violence.
Ouh, et ben dis donc, y a de la... on voit une ressemblance.
Ouais, mais dans la voix, la façon de parler.
La voix, la façon de parler, et puis le
caractère.
Le caractère. caractère, là. Il n'y a pas de doute, c'est ta sœur.
Petite air de famille.
Donc, moi, je trouve ça quand même hallucinant. J'arrive même pas à imaginer, quoi, de se balader dans la rue. Enfin, déjà, c'est assez relou d'être une meuf. Mmh. Mais si, en plus, tu te fais carrément, suivre et proposer des trucs sexuels tout le temps, avec ta meuf et tout. Et c'est vrai que quand deux femmes sont ensemble, c'est très souvent associé à des fantasmes sexuels masculins, parce que oulala, deux femmes dans un lit, le rêve absolu. Sauf que c'est nier le fait que elles sont pas attirées par les hommes et elles t'ont pas sonné en fait. Elles sont ensemble par choix et pas parce qu'elles ne connaissent pas le plaisir de la bite. C'est pas qu'elles se sont trompées en fait. Donc oui, on peut se faire kiffer sexuellement sans pénis, et d'ailleurs les statistiques le prouvent. On en a déjà parlé du
ça
fait que
être plus kiffant.
Voilà, les femmes lesbiennes atteignent beaucoup plus souvent l'orgasme lors d'un rapport que les femmes hétéros. Donc clairement, elles n'ont pas besoin de vous, au contraire. Après, il y a aussi tous les tags porno et les représentations du sexe entre lesbiennes dans les films, notamment aussi dans La vie d'Adèle, qui est parfois représentée comme un film hyper progressiste. Mais justement, moi, je me souviens qu'à l'époque, ma sœur m'avait dit qu'elle n'avait pas du tout kiffé, que c'était...
Toutes mes copines lesbiennes m'avaient dit ça pareil. Elles me disaient, mais en fait, c'était... Enfin, genre, c'est quoi cette scène, quoi.
C'est encore un film porno lesbien fait par un homme et pour les hommes.
Voilà,
en fait.
Exactement. C'est ce qu'on appelle le male gaze. C'est que voilà, on sent le regard de l'homme et ses fantasmes à lui. Mmh. Et il n'essaye pas du tout de comprendre leur sexualité, ce qu'elles, elles aiment ou quoi. C'est ce que lui, il a envie de voir, quoi.
C'est ça. Du coup, pour le contrepoint, si vous voulez voir un film avec un regard sur un couple de lesbiennes par une femme, vous pouvez aller voir Portrait de la jeune fille en feu de Cécile Sciamma, qui vient de sortir là.
Tout le monde m'en parle.
Et qui est vraiment super chouette. Mmh. Et justement, qui montre une autre image, en fait. Et une image plutôt... c'est très beau, en fait. Enfin, allez-y.
Et du coup, il y a un des phénomènes dans le digital qui est que quand on tapait lesbienne en fait sur Google, on trouvait que des choses qui étaient liées au porno en fait. Et il y a un collectif qui s'est battu, donc le collectif SEO lesbienne, pour changer l'algorithme de Google. Et Google a fini par céder. Du coup, maintenant, quand on cherche lesbienne, ça propose des définitions et plus du contenu porno en fait. Et ça, c'est quand même une victoire énorme, parce que ça change tout, en fait, ce qu'on trouve quand on fait une recherche. Mmh. Ça va conditionner notre vision de la chose, en fait. C'est logique. Donc, bravo au collectif SEO lesbienne.
Ouais, mille bravo. Ça n'a pas dû être simple comme bastonnade, parce que Google,
contre
c'est
Google,
quand même...
Contre Google, juste, voilà.
Donc, bravo à vous. Et puis, Marga, du coup, sans plus tarder, tu vas nous présenter notre deuxième warrior.
Et oui, c'est Lucia. Alors, je vais vous expliquer un peu le contexte en partant de genre très très loin. Donc, vous avez vu, le mois dernier, les manifs contre la PMA. On voit que les homophobes de la manif pour tous sont encore vivants. Alors, imaginez-vous faire votre coming out lesbien dans une famille où tout le monde est en mode manif pour tous. Voilà, donc c'est ce que Lucia a fait, mais en mode warrior puissance 10 milliards, puisqu'elle a été élevée au sein de la fraternité Saint-Pidis. Alors, pour faire simple, c'est pas considéré comme une secte par la Miviludes, l'organisme qui surveille les mouvements sectaires, mais quand même bien observé. Et c'est, en gros, c'est les intégristes catholiques, quoi. Ils sont tellement vénères que pour eux, le Vatican, c'est genre des progressistes, quoi.
Ah ouais.
Voilà. Donc ils ont fait
le gros level, quoi.
Ils ont fait sécession, ils ont fait un schisme pour pouvoir faire leur mouvement à eux. Donc forcément, ils ont la vérité et voilà, c'est en mode hyper intégriste. Je vous conseille d'aller vous renseigner un petit peu, mais je vous mettrai en lien un article d'un homme qui raconte sa jeunesse dans une école de cette confraternité. D'accord. Alors entre le racisme, les violences, les punitions au milieu de la nuit où tu es obligé de faire ta prinaire à genoux en pyjama dans le froid, enfin des trucs complètement
gamin, des trucs comme
voilà, c'est ça, mais vraiment hyper violent et hyper sectaire finalement. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'enfance qu'a eu Lucia, et donc elle va nous raconter un petit peu la suite de son histoire.
J'ai connu mon futur mari à 16 ans et je me suis fiancée à lui à 19 ans, et j'ai été mariée à lui à 21 ans, après mes études. Et on n'avait pas de rapport avant le mariage, parce que c'était ainsi qu'on était éduqués. Directement après le mariage, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème, Donc après 5 années de recherche et de remise en question, j'ai été face à la réalité, comme quoi j'étais lesbienne. On n'en parlait jamais de l'homosexualité dans mon éducation, où c'était considéré comme quelque chose, comme un péché dit mortel. Donc, c'est-à-dire que notre âme, après la mort, va directement aux enfers. Et les enfers, c'est quelque chose d'horrible. Une damnation éternelle, une souffrance innommable. Donc en 2013, ma famille a fait la manif pour tous. Ils voulaient que je vienne et à ce moment-là, malgré le fait que je ne savais pas du tout que j'étais lesbienne moi-même, j'ai trouvé une excuse pour ne pas y aller. Lorsque j'ai été sûre d'être lesbienne, j'ai donc divorcé d'avec mon ex-mari. Donc c'était en 2016. Et quelques mois après, j'ai rencontré ma compagne actuelle, avec qui je suis depuis 3 ans. Pour trouver la force de faire mon coming out, je me suis dit que j'ai qu'une seule vie. Et comme je suis une personne très entière et honnête, pour moi, il était hors de question de vivre dans le mensonge, d'abord vis-à-vis de moi-même, puis après vis-à-vis des autres. Je l'ai dit à ma mère, qui, elle, s'est chargée de le dire à mes frères et sœurs. Et au reste... au reste des membres de ma famille. Donc, ça a bien sûr été un énorme froid avec ma famille. J'ai été mise de côté comme une personne contagieuse et ils m'ont pas parlé pendant des années. Et aujourd'hui, ils recommencent à venir vers moi tout doucement. Aujourd'hui, je suis toujours en reconstruction. Et bien sûr, je me sens 1000 fois mieux qu'avant, car je suis moi.
Voilà, voilà.
Bravo. Bravo. Alors, on précise qu'elle souhaitait rester anonyme, du coup sa voix a été modifiée.
Exactement.
Mais quel courage.
Ouais.
Enfin, dans ce contexte-là, c'est méga complexe, quoi.
C'est méga compliqué et bon, pour vous donner un petit peu des nouvelles, dans la suite de son témoignage, elle nous raconte qu'actuellement, elle est même en parcours PMA.
Ah,
donc,
okay.
On leur souhaite à toutes les deux tout le bonheur et toute la réussite.
Ouais, et le courage aussi.
Et puis mille bravos pour arriver à s'écouter, etc. Soi-même déjà, en commençant par ça, dans ce contexte-là, puis ensuite l'affirmer devant la famille. Mais enfin, moi, j'imagine même pas ce qu'il a fallu qu'elle déploie comme... comme courage. Bon, mille bravos. Et maintenant, c'est à moi de vous présenter une autre warrior qui sera également souhaitée rester anonyme. Donc, ce n'est ni son vrai nom, ni sa vraie voix. Donc, on l'appellera Linda. Linda, donc, elle est bisexuelle. Elle est en couple avec une femme. Et visiblement, ça fascine les rapaces, ou pardon, les mecs autour d'elle. Elle nous raconte
les crocodiles.
Du coup, elle nous raconte comment elle va calmer ces messieurs.
Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des relations ou des plans cul, surtout avec des hommes, et là, ça va faire 1 an que je suis en couple avec une femme vraiment merveilleuse. Quand j'ai annoncé cette nouvelle relation à mes ex ou à mes anciens plans cul, si jamais je leur précisais qu'il s'agissait d'une femme, ils réagissaient presque tous en me sortant des clichés dégradants sur les femmes lesbiennes ou les femmes bi. Le cliché le plus fréquent qu'il me sortait, c'était le fantasme du plan à trois. Plusieurs d'entre eux me disaient des choses comme « Ouais, si vous voulez un mec pour vous amuser, ou si vous voulez un mec à votre service pour un plan à trois, fais-moi signe. » Et évidemment, il est hors de question pour moi, comme pour ma compagne, de faire des plans à trois avec ces mecs-là. Donc je les envoyais promener, hein. Souvent je leur disais « Non, je veux pas faire de plans à trois, mais merci de proposer, parce que je reste encore trop gentille. » Mais l'accumulation de ces remarques homophobes me pesait. Et je faisais souvent lire ces messages à ma compagne, donc on en a discuté toutes les deux. Elle remarquait que souvent, ces mecs tournent leurs phrases pour faire croire qu'ils veulent être à notre disposition, alors qu'en fait, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir 2 corps de femmes dans leur lit pour le prix d'un. Donc ils veulent plutôt 2 femmes à leur service. Du coup, on a imaginé un moyen pour moi de répondre à ces demandes indésirables. Et à chaque fois qu'un mec me demanderait un plan à trois en prétendant être à notre service, entre guillemets, on a décidé que je leur répondrais « ok, mais seulement si on te sodomise ». L'idée, c'est que s'ils veulent vraiment être à notre disposition, alors ils pourraient tout à fait accepter une telle demande. Et s'ils la refusent, ça confirme qu'ils ne veulent pas vraiment nous servir ou être à notre disposition, contrairement à ce qu'ils prétendent. J'ai pu tester cette stratégie à 2 reprises par la suite, et dans les 2 cas, le mec répondait « Ah non, je veux pas du tout, non merci ». Et ensuite, il ne refaisait plus jamais ce genre de demande. Donc au moins, ça me permettait d'être tranquille après, même si c'est triste de devoir utiliser leur tabou de la sodomie pour les rembarrer.
Bah, bravo Linda, ça rejoint pas mal le témoignage de ta sœur. Du les mecs cis hétéros sont déjà super relous avec les femmes en général, mais alors deux femmes, on dirait que ça les rend loups-garous, quoi. Donc, mais même ma meilleure amie, elle me racontait que quand elle danse avec sa copine, c'est hyper fréquent qu'un homme vienne les saouler, mais parfois même en mode stratège, genre il joue d'abord le bon copain, etc. Et à la toute fin, il finit par révéler ses véritables intentions en quémandant un plan à trois. Donc effectivement, c'est malheureux de devoir faire appel à leur homophobie latente pour qu'ils percutent ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça reste très efficace. Au moins, comme ça, ils s'imaginent déjà être à la place de la personne pénétrée et non pénétrante. Ils imaginent aussi un potentiel rapport de force avec un autre homme, enfin, ou avec deux femmes. Du coup, là, le rapport de force est présent. Et du coup, ils peuvent sentir un danger. Donc bref, ça les pousse un petit peu à se mettre à notre place. J'aime pas me servir de leur homophobie pour leur faire comprendre des choses, mais à terme, peut-être qu'avec cette stratégie, ils vont finir par laisser les femmes tranquilles.
Ou alors même se dire que, ah ouais, tiens, pourquoi pas la sodomie, parce que
pourquoi pas.
C'est quand même super cool pour un mec, la sodomie.
Ils ont tout intérêt à le découvrir.
Voilà.
Mais bon, ça, il ne faut pas l'imposer, on est d'accord. Ça marche dans les deux sens, on impose la sodomie à personne.
Alors, ce qui est rigolo aussi avec Linda, c'est dans son message, dans son mail qu'elle nous a écrit pour nous raconter cette histoire, c'est qu'elles ont fait un pari toutes les deux. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle doit payer un resto à sa meuf le jour où un mec acceptera la proposition. Elle dit, mais jusqu'à présent, c'est encore jamais arrivé.
Tu m'étonnes.
Bon, eh bien, bravo les filles, c'est un travail d'équipe en plus, donc très bien. Et du coup, Margaïde, tu nous présentes la prochaine personne qui témoigne.
Oui, je suis un peu toute émue, un peu comme Elsa tout à l'heure, puisque je vais vous parler de mes copines Chiara et Marwa. Donc Chiara est italienne, Marwa est tunisienne, elles vivent toutes les deux à Marseille, elles sont heureuses. Sauf qu'on peut dire que l'administration leur met un petit peu des bâtons dans les roues pour vivre leur grande histoire d'amour.
Mais c'est pas le genre de la maison pourtant.
Donc, dès qu'elles se sont rencontrées, très vite, s'est posé pour Marwa le problème qui se pose à quasiment tous les étrangers hors Union européenne. C'est le problème des papiers et d'une possible expulsion. Pendant très longtemps, donc, elle avait vécu avec cette menace. Mais heureusement, en 2013, la France a voté pour le mariage pour tous. Donc, elles se sont naïvement dit, bon, bah, on va se marier et ça va permettre quand même de régler pas mal de questions. Sauf que non, en fait, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop facile. Je vous laisse, c'est Chiara qui raconte.
Saviez-vous que le mariage pour tous n'est pas pour tous ? Parce qu'une ressortissante tunisienne, et d'ailleurs aussi algérienne, marocaine, ne peut pas se marier avec une personne de même sexe en France. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que l'ancienne puissance coloniale froisse trop la sensibilité des anciens colonisés. Mais quelle hypocrisie, je dis ! Et bon, du coup, on va se paxer. Ça donne moins de garanties en termes de papier, mais c'est ce qu'on a. On organise à toute vitesse mon retour en Italie pour le coming out avec la famille, au moins qu'ils soient au courant, les pauvres, puis la fête de Pâques à Marseille avec gros couscous maison. À la suite du Pâques, on attend avec un peu de crainte des contrôles possibles anti-mariage blanc. Tu sais, comme dans les films, les fonctionnaires de l'État qui t'interrogent, qui te demandent de quelle couleur est la brosse à dents de votre conjoint. Quelle est la date de naissance de vos beaux-frères ? Finalement, ni interrogatoire débile, ni intrusion nocturne dans notre intimité. Au bout de 4 ans de lutte, à coup de titre de séjour, à renouveler tous les 6 mois, en 2019, ce sera un titre de séjour de 5 ans. Victoire ! Mais on n'est toujours pas satisfaite. On veut tout. Je veux la fête totale avec les amis, la famille élargie, les discours, la bouffe. En 2016, l'Italie a aussi adopté une loi sur les unions civiles. Les cons nous livrent, en fait, sur un plateau d'argent, une loi qui est beaucoup plus avantageuse du point de vue de notre couple binational que le Pax français. Et alors, on y va ! C'est la fête, c'est toute la famille italienne à qui j'avais tant hésité à dire ma relation avec une femme. Ce sont tous les amis venus presque des quatre coins du monde qui nous entourent. On danse et on chante jusqu'au matin. C'est trop ça, c'est trop bien. C'est trop fuck, on l'a fait quand même. Vous avez toujours pas compris que plus vous construisez des barrières, plus on s'unit pour les contourner. On veut tout, les frontières géographiques et sociales, on les traverse quand le cœur nous en dit, pas quand vous nous le dites.
Ouais, bravo.
C'est sacré père de warrior, là.
Ah là là, en leur écoutant, je me dis, je suis trop dégoûtée, j'ai pas pu aller à leur mariage en Italie. J'étais en mode, non, je peux pas, c'est pas possible. Et voilà, j'ai loupé cette fête merveilleuse dont on m'en a parlé pendant genre des mois. Mais du coup, ouais, cette histoire de pays, de nationalité avec lesquelles on peut pas faire de mariage de mots. Alors, c'est pas uniquement les trois pays dont elle a parlé. En fait, je vais vous faire la liste des pays, des personnes, voilà, des pays concernés, des personnes avec qui vous ne pouvez pas vous marier si vous le souhaitez. Donc, la Pologne, le Maroc, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo, la Slovénie, le Cambodge, le Laos, la Tunisie et l'Algérie. Donc, c'est des accords, en fait, qui ont été signés entre la France et ces pays au moment de la décolonisation dans les années 60, donc des anciennes colonies et des pays de l'ex-Yougoslavie. Donc le but, c'était apparemment de respecter l'identité religieuse de chacun des pays concernés. C'est clair, en France, dans les années 60, on était vachement en avance, le mariage homo était vachement accepté. Oups, non, pas vraiment. Donc, selon, j'ai lu un article là-dessus que je vous mettrai en lien, mais selon un prof de droit qui s'appelle Mathias Audit, pour permettre ces unions, en fait, il faudrait que les autorités françaises dénoncent ces accords diplomatiques et du coup, ça pose tout plein de problèmes
diplomatiques,
voilà. Et ce serait très compliqué, et notamment pour les pays, les anciennes colonies, en fait, parce qu'il y a quand même encore pas mal de problèmes à régler. Donc voilà. Comment encore la colonisation a encore quand même pas mal de conséquences sur nos vies intimes, hein, quoi qu'en disent certains. Dans d'autres pays européens, ils ont quand même trouvé des solutions, notamment en Espagne et en Belgique, en fait, qui ont aussi voté le mariage pour tous. Et dans ces pays, en fait, ils ont réussi à faire en sorte que tout le monde puisse se marier. Ils ont fait en fait une loi qui dit que même si la personne est ressortissante d'un pays où le mariage homo n'est pas accepté, et ben quand même, si une des deux personnes qui veut se marier a une résidence dans le pays, donc l'Espagne ou la Belgique, le mariage est possible. Okay. Donc voilà, c'est aussi une façon, comme dit Chiara dans le témoignage, on veut pas trop froisser les... Voilà, c'est comme elle dit, moi je suis d'accord avec elle, c'est hyper hypocrite, quoi.
Ouais, complètement.
Et donc ça dure depuis 2013 quand même, c'est un problème qui a été soulevé par l'association Les Amours au banc public, qui défend les couples binationaux, en 2013, et depuis il n'y a aucune solution qui n'a été trouvée.
Génial. Bah, c'est une double, triple, quadruple bravo du coup à tes deux amis qui se sont bastonnés, qui n'ont rien lâché et qui ont réussi à mener à bien leurs objectifs, on va dire. Et puis ben maintenant, je vais vous présenter Élie. Élie, il a 21 ans, il est trans. Et cet été, il est retourné à Montpellier, la ville de son enfance, où vivent encore ses parents. Et du coup, il nous raconte ses appréhensions et sa victoire.
Et il se trouve qu'à cette période-là, c'était la Pride à Montpellier. Du coup, j'ai décidé d'y aller. Mais j'avais un peu peur parce que je suis pas du tout out à Montpellier. Très peu de personnes savent que je suis trans. J'avais peur de croiser des anciennes connaissances de lycée qui auraient pu me mégenrer ou utiliser mon ancien prénom, mon dead name, ou alors de rencontrer des amis de mes parents, parce que mes parents sont pas du tout au courant. J'ai fini par rejoindre le Pink Bloc, qui est un cortège militant. Et petit à petit, j'ai eu moins peur et j'ai été tenir la banderole, lancer des slogans. Et là, j'ai appris que à la fin de la Pride, le Pink Bloc devait monter sur l'estrade pour faire un discours, et que ce discours devait être fait par deux mecs cis. Donc là, j'étais un peu en colère parce que les mecs cis, c'est eux qui prennent la place, partout en fait. Je me suis dit quand même que dans le Pink Bloc, c'est un cortège militant. Ça aurait pu changer. S'il y a un endroit où ça devait commencer à changer, c'était là. Du coup, j'ai pris mon courage et j'ai décidé de monter avec eux faire le discours. Ça a été une énorme victoire pour moi de me retrouver là, sur cette grande place de la Comédie, devant tous ces gens à crier mes revendications. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça a fait beaucoup de bien à tous mes adelphes, mes frères et mes sœurs trans en face de moi. De voir une personne trans parler, en fait. D'ailleurs, j'ai fait un très très beau discours. Je suis très fière de moi.
Waouh, ça me fait me hérisser les poils sur les bras, là, tellement
c'est
trop cool.
Wow. C'est une sacrée victoire, c'est super courageux, surtout dans ces circonstances-là, donc bravo.
Ouais.
Et effectivement, il y a un vrai problème de visibilité au sein même des cortèges et des groupes militants, comme au sein de la société tout entière, en fait, mais... C'est d'autant plus anormal de le retrouver aussi dans ces milieux. Donc ça fait des années, moi, que je vois des collectifs et des assos de personnes trans qui parlent de ça, du fait que même dans le terme à l'intérieur de la communauté LGBTQIAA+, il peut encore y avoir une forme de hiérarchie qui s'installe et qui du coup invisibilise certains sujets. Donc dans le cas présent, c'est Ellie lui-même qui est allé corriger le tir, mais on espère qu'avec le temps et avec le nombre de contenus qui sont produits là-dessus, les choses se répartiront mieux de base sans que personne n'ait à aller conquérir son droit à la parole, en tout cas au moins dans le milieu militant, quoi. Donc pour ça, il faut aussi savoir passer son tour, laisser sa place. Il faut parfois, pour permettre à des personnes minorisées ou très peu visibles de se faire entendre, eh ben il faut soit se mettre en retrait. Et ça pose donc la question de notre rôle en tant qu'allié sur certaines luttes. Et justement, Elsa, je crois que c'est ce dont nous parle la prochaine Warrior.
Tout à fait. Donc Julia, qu'on va écouter, quand elle était ado, plusieurs de ses amis lui ont annoncé qu'ils étaient homosexuels. Et en fait, elle captait pas du tout l'enjeu. Elle voyait pas. Elle voyait pas que ça pouvait être une source de discrimination pour ses amis. Elle se rendait pas compte que c'était un peu un truc de fou pour eux de faire leur coming out, etc. Et en fait, son père a commencé à faire des remarques homophobes régulièrement. Par exemple, il parlait du fait que ouais, les gays se cooptent entre eux dans le monde de l'art, parce que lui travaillait dans le monde de l'art, donc il se plaignait beaucoup de ça. Il disait aussi que ça le dégoûtait de voir des homos s'embrasser ou se tenir la main dans la rue, etc.
Donc là, on parle de quelqu'un, a priori, éduqué, qui travaille dans le monde de l'art.
Ah bah, voilà. Oui. Et du coup, elle se disputait un peu avec lui, mais elle dit que bah, comme c'est un homme très patriarche et très autoritaire, etc., il mettait toujours fin à la conversation en mode « bon, écoute, ici, c'est chez moi », etc. Mmh. Et elle finissait par lâcher l'affaire parce que, il avait l'autorité, etc. Sauf qu'un jour, à table, il a fait une remarque de trop. Et là, on va écouter ce qui s'est passé.
Là, je ressens mais un ras-le-bol énorme. Juste, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'en était trop. Et donc, je me retourne vers lui. Je lui parle assez calmement dans mon souvenir et je lui dis « C'est simple, en fait, s'il continue à tenir ce genre de propos. Pour moi, c'est qu'il s'attaque à mes amis. Pour moi, il s'attaque à des gens innocents. Et en fait, il s'attaque à mes valeurs et donc à moi. Et s'il continue, en fait, moi, je ne peux plus le voir. » Et là, j'étais prête à me lever, calmement, toujours, et à partir éventuellement chez ma mère, car mes parents sont divorcés. Et ce qui arrive, c'est quelque chose d'inattendu. C'est qu'en fait, mon petit frère et mon demi-frère se mettent à parler. Et ça, dans mon souvenir, ça n'arrivait pas. Je pense qu'ils étaient trop impressionnés par mon père. Et du coup, ils embrayent tout de suite après moi, dans le tour de parole, et ils lui disent aussi très calmement qu'eux aussi, en fait, ils n'en peuvent plus, qu'eux aussi, ça les touche et ça leur fait vraiment pas du bien d'entendre ça, et qu'ils veulent que ça cesse. Et depuis ce moment-là, mon père n'a plus jamais tenu de propos homophobes, en tout cas pas devant moi, j'en ai pas le souvenir. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a réussi à discuter. Il a évolué, il s'est ouvert l'esprit. Et puis, moi aussi, en fait, j'ai vachement évolué. Moi, j'ai pris conscience, en fait, de choses que je disais, que je faisais, que j'étais pas toute blanche, qu'en fait, j'avais intériorisé, moi aussi, une homophobie latente, insidieuse, qu'on retrouve dans toute la société, et notamment dans l'humour, dans les blagues douteuses sur les homos. Et voilà, j'ai pris conscience de ça avec les années. Et ça ne fait plus partie de mon credo, ça ne me fait plus rire. Je suis passée à autre chose, je ris d'autres choses. Voilà.
Merci Julia, et bravo pour ton témoignage et pour ton honnêteté. Aussi pour avoir confronté ton père sur son homophobie. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à rien dire, à laisser passer, quoi.
Oui, quand on n'est pas concerné, en fait, on se dit « Ah, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave, voilà. Ça va passer. » Et puis après, on passe à autre chose et tout va bien.
Et je trouve ça cool qu'elle admette aussi qu'elle-même a eu des comportements ou des pensées ou quoi, homophobes. Moi, je dis souvent qu'on est tous racistes et ça choque vachement les gens. Ouais. Pourtant, ça me semble logique. On a été conditionnés dans une société qui est raciste, donc toute la culture qui nous entoure l'est aussi. C'est exactement pareil pour l'homophobie. Donc, comme elle l'a dit, à travers l'humour, mais aussi le langage, plein de choses qu'on questionne pas forcément et qui pourtant sont très lourdes de sens. Et c'est très difficile à comprendre quand on n'est pas directement visé ou affecté par ça. Mais une fois qu'on a compris, ça coûte rien de reconnaître qu'on s'est trompé et qu'on a appris, même si c'est plus dur quand on vieillit, j'ai l'impression. Donc voilà, je voulais faire une recommandation aussi du podcast Camille, qui est un podcast de Binge Audio. Il y a notamment un épisode qui s'appelle « Être gay friendly ne suffit pas », je crois.
Ouais, c'est ça.
J'ai beaucoup aimé ce podcast et cet épisode en particulier parce qu'en fait, la podcasteuse, elle nous explique avec l'aide de personnes expertes sur le sujet qu'en fait, on pense souvent être progressiste, donc gay friendly, donc « Ah, mais moi, ça me dérange pas, les gens, ils font ce qu'ils veulent, non mais c'est génial, gay pride,
tolérant.
Oui, je suis très tolérant et tout ça. » Sauf qu'en fait, elle explique qu'en réalité, chez les hétéros et dans la norme, il y a vraiment des... justement, une norme qui définit qu'est-ce qui est acceptable ou pas comme type d'homosexualité.
Aussi, ouais.
Donc, il y a certaines façons d'être gay qu'on va accepter parce que peut-être on se sent pas menacé par ça ou que ça remet pas trop en cause notre sexualité à nous ou quoi. Et qu'en fait, on passe notre temps à normer, à définir les limites.
On recrée des injonctions, du coup.
Voilà, de qu'est-ce qui est acceptable en tant que gay ou quoi. Elle parle aussi du fait que souvent on croit que les gens qui sont urbains sont plus gay friendly et sont plus au courant de ces questions-là et en fait et que genre les gens qui vivent à la campagne ils seraient tous des gros homophobes super beaufs etc. Et en fait des sociologues ont montré que pas du tout, il n'y a pas plus d'homophobie en milieu rural. Mais c'est juste que les Parisiens, ou on va dire les bobos en général, ils ont plus le vocabulaire pour pour pas froisser les gens ou quoi, mais qu'en réalité, ils ne sont pas forcément plus tolérants que...
Ils ont surtout intégré que c'est pas bien d'être homophobe.
Voilà. Exactement. Mais sans se remettre profondément en question. Et par exemple, très souvent, ils vont te dire, mais par contre, mon fils... En fait, ça, c'est si tu leur demandes, et si ton fils, il te disait qu'il était gay, t'en penserais quoi ? Et là...
Non, mon fils, c'est pas possible.
Voilà, exactement. Énormément de gens vont te dire, ah non, là, ça me ferait chier quand même. Donc, et ça, c'est un bon critère pour voir si les gens sont réellement tolérants.
Mais grave, parce
tolérants,
qu'ils ils te disent jamais, ça me ferait chier, parce que je sais que du coup, mon enfant va subir potentiellement de l'homophobie, des violences. C'est jamais ça, en fait. Parce que ça, à la limite, ça pourrait être sain de dire effectivement, j'ai pas envie que mon enfant vive des violences, donc je lui souhaiterais entre guillemets d'être hétéro, histoire de passer d'avoir ce privilège d'être hétéro et de passer à travers tous les problèmes. Non, c'est jamais ça qui est sorti. C'est mon fils avec un garçon, mais non. Enfin, et là, c'est vraiment l'homophobie dans toute sa splendeur qui s'illustre toute seule, quoi.
Ouais, mais même à la limite, si tes enfants sont homo, justement, tu peux dire, je me battrai avec eux, justement, quoi, pour donner encore plus envie de se battre.
C'est clair.
Pour que ça devienne normal, enfin que ce soit plus, plus un enjeu en fait.
Pour que ton gosse ait pas tous ces obstacles à la con
c'est
sur
ça.
Sa route. Quoi.
Exactement. C'est important aussi, il me semble, de réfléchir au vocabulaire parce qu'on en a parlé un petit peu et notamment dans le témoignage de Ellie, on a parlé de Mexi. C'est un vocabulaire qui est pas toujours maîtrisé par tout le monde et c'est pas toujours facile d'en parler sans avoir le bon vocabulaire. On peut parfois avoir peur de se tromper, de choquer la personne en face. Pour justement ouvrir le débat là-dessus, je vous conseille vraiment de regarder une vidéo sur YouTube qui a été réalisée par Les Goudous et qui s'appelle Activiste ou Actimel et qui, avec beaucoup, beaucoup d'humour, parle de cette question-là, justement, de à la fois les personnes.
Comment bien
qui...
nommer les choses, l'opportunité à chacun de se définir, tout ça.
Voilà, comment parler avec le vocabulaire qui ne choque pas en face et avec un regard assez décalé quand même entre deux copines lesbiennes qui ont des réflexions homophobes et transphobes et une copine en face qui est hyper militante et qui elle en peut plus de ses copines qui comprennent rien à rien et qui font n'importe quoi et c'est très très drôle. Moi je l'ai montré à mes parents cette vidéo justement sur un débat où on parlait de ouais mais maintenant on sait plus trop enfin qu'est-ce qu'il faut dire comment nommer les choses et ça permet à la fois de rire de dédramatiser un petit peu cette question-là et en même temps de
déconstruire,
d'apprendre des choses et d'apprendre des mots.
Très bien, on ira regarder ça. Et du coup, Marga, reste au mec, tu nous présentes la rubrique Les Warriors du mois.
Yes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un collectif, le collectif intersexes et alliés. C'est donc un collectif qui défend les personnes intersexes. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiers du sujet, donc c'est une personne qui ne naît pas avec les attributs traditionnellement assignés au sexe féminin ou au sexe masculin. Pour les bébés, par exemple, ça peut être un pénis atrophié ou un clitoris jugé trop long, par exemple. Donc ça concerne, selon l'ONU, 1,7% des naissances. Donc c'est autant que de personnes rousses sur Terre. Donc pour vous donner un petit peu...
C'est pas du tout anecdotique.
Voilà, on n'en entend pas du tout parler, c'est totalement invisibilisé, mais quand même. Et ça n'a rien à voir ni avec le genre, ni avec l'orientation sexuelle des personnes. C'est totalement, totalement anatomique. Et donc en France, trop souvent, les enfants sont opérés, en fait, pour qu'ils puissent se conformer esthétiquement à cette norme.
À un genre ou à l'autre.
Voilà, à cette norme, même pas à un genre, hein, à une norme esthétique de ce à quoi doit ressembler un sexe féminin, un sexe masculin.
Et on leur demande pas leur avis.
Et on leur demande pas leur avis. Hein. J'ai vu un documentaire où il y a un témoignage de jeunes femmes qui racontent qu'entre 9 et 12 ans, elles ont subi des dilatations vaginales quand même. Enfin, c'est
donc des viols à répétition. Voilà.
L'ONU a condamné la France pour ses pratiques parce que ça peut entraîner de la stérilité, des douleurs, une perte de sensibilité. Donc c'est vraiment très très grave.
C'est des mutilations.
Ce sont des mutilations. Et donc, une des revendications principales du collectif intersexe et alliés, c'est l'arrêt de ces opérations qui sont considérées, voilà, comme tu disais, comme des mutilations, je me répète. Mais le problème, c'est que ces luttes sont invisibilisées. Hein, on en parlait tout à l'heure avec le témoignage de Ellie. Mais quand même, ça commence, la parole commence un petit peu à passer. Et lors de la dernière marche des fiertés, donc ce collectif a eu une première victoire, puisqu'ils ont pu prendre la parole officiellement pendant la marche des fiertés à Paris. Et donc, voilà, plutôt que je continue à parler, je vous propose d'écouter Micha, qui est un militant de ce collectif.
Nous marchons aujourd'hui aux côtés du mouvement des délaissés des fiertés, qui rassemble queer, trans, queen, PD et inter, unis contre le pinkwashing et l'invisibilisation des groupes minoritaires. Nous dénonçons l'institution médicale et nous élevons contre les crimes. Et surtout, nous marchons en tête, fiers et vénères. Nous marchons pour tous les inter qui ne le peuvent pas. Nous marchons pour les enfants. Nous marchons pour qu'enfin nos voix soient entendues. Nous marchons pour montrer qu'on ne vous attendra pas. Nous sommes là, plus déterminés que jamais, plus visibles que jamais. Et vous allez nous écouter. Stop mutilation intersexe. Stop mutilation intersexe. Stop mutilation intersexe.
J'ai les poils levés sur les bras, des larmes aux yeux.
Oh là 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 là.
La force, quoi.
Ce qui est bien, enfin, c'est que grâce à cette lutte, vraiment, le sujet est arrivé jusque dans l'Assemblée nationale, puisque pendant le débat sur la loi bioéthique, donc c'est la loi qui traitait notamment de la PMA pour toutes les femmes, un débat a été ouvert sur cette question-là, et c'est une grande première en France. Donc malheureusement, l'amendement qui demandait l'arrêt des mutilation n'a pas été adoptée, mais quand même il y a un amendement qui a été pris qui encadre quand même les opérations et la prise en charge médicale des enfants intersexes. Donc il y aura un rapport qui va être rédigé d'ici un an. Donc c'est déjà une première victoire dans la prise en compte de cette problématique. Donc évidemment, le collectif intersexe et alliés regrette que la France n'ait pas purement et simplement arrêté ces mutilations, mais c'est déjà une première victoire. Il salue cette avancée. 2 heures de débat à l'Assemblée nationale, c'est quand même pas rien. Le combat continue. Alors, n'hésitez pas à aller visiter leur site. Je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous voulez rejoindre leur lutte, pourquoi pas le 8 novembre pour la Journée internationale de solidarité intersexe.
C'est mon anniversaire.
Et c'est ton anniversaire. Ben voilà.
Raison de plus pour aller défendre les droits de tout le monde. C'est déjà la fin de cet épisode arc-en-ciel. C'est passé super vite. On espère que vous avez aimé, on espère que ça vous a inspiré et motivé, et on remercie évidemment nos warriors pour leur témoignage. Donc merci à Iris, Linda, Chiara, Ellie, Julia et Lucia.
Et bravo à Micha aussi.
Et bravo à Micha également, clairement, super discours. Merci beaucoup d'avoir partagé vos victoires avec nous. Et si vous voulez creuser le sujet ou témoigner, je vous invite à découvrir les projets Pay ta Gwyn, Pay ta Biphobie, Pay ta Transphobie, qui recueillent des témoignages de personnes, du coup, Gwyn, Biphobie, bi et trans. Ça a permis de se rendre compte, pour les gens non concernés comme moi, de la violence qu'on peut subir ou faire subir. Donc c'est super percutant et ça remet un peu les choses à plat. Foncez donc lire ça ou enrichir encore plus le recueil de témoignages. Le prochain épisode sera un peu particulier puisqu'on va l'enregistrer en live le 19 novembre depuis l'école Sciences Po à Aix.
Pam, pam, pam. Donc, Sciences du coup, Po, vas-y.
Voilà, vous l'avez deviné, on va parler de sexisme dans les grandes écoles. Donc je n'aurai rien à dire. Si tu as recadré les réflexions misogynes ou les avances du professeur, si tu as monté une asso étudiante féministe, si tu as battu des mecs sur le terrain des idées, si tu as fait cesser des bizutages humiliants ou encore si tu as défendu une personne qui subissait des violences dans une grande école, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Tu peux donc, tu le sais, nous écrire ou nous envoyer directement un enregistrement audio à warriors@yespodcast.fr. Nous serons également sur la scène du Théâtre Tourski à Marseille le 20 novembre pour participer à Binge en scène. Binge, c'est le label des couilles sur la table et de À bientôt de te revoir, et ils nous invitent à imaginer un format décalé devant public. Viens donc nous y voir.
Ça va être super.
Ça va être chouette. Je suis pas du tout stressée.
Mais non, tout va bien se passer.
Oui, je nous fais confiance. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio BAM à Marseille qui nous reçoit à nouveau.
Merci, merci.
Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Tu peux aussi, si le cœur t'en dit, nous offrir 5 étoiles sur iTunes et nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook.
Ça fait plaisir.
On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, on est fiers de toi et tu as de quoi être fier de toi. Tu existes, tu mérites, tu as de la valeur, t'es la meilleure version de toi-même. Bref, meuf, t'es une warrior.
Yes ! Bravo !